Alors nous allons lire deux portions des Écritures à part notre portion centrale. Néhémie au chapitre 2, deuxième chapitre de Néhémie. Nous lirons le verset 11 au verset 15e et puis nous lirons aussi le verset 17e. Néhémie chapitre 2, verset 11 à 15. Et puis verset 17. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortais les nuits par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte, de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où passait la bête qui était sous moi. Je montais des nuits par les torrents, et je considérais encore la muraille, puis je rentrais par la porte de la vallée, je fus ainsi de retour. Verset 17. Je leur dis alors, voyez les malheureux états où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Nous allons aussi lire Luc au chapitre 15, verset 14 jusqu'au verset 19. 15e chapitre de l'évangile de Luc, partant du verset 14. Et nous aurons jusqu'au verset 19e. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ses pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service dans les habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre les cieux et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et nous relisons Isaïe chapitre 61 et le seul verset 4e. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Reconstruire sur d'anciennes ruines. Tel est le thème qui nous réunit de ce soir et avec la grâce de Dieu jusqu'à dimanche matin. Et déjà ce soir, je vais essayer de parler, c'est vrai, sur ce grand thème, mais j'aborderai un sous-point que j'ai intitulé « Les incontournables pour reconstruire avec succès sur d'anciennes ruines ». Avant cela, j'ai voulu que nous puissions nous mettre d'accord sur certaines notions essentielles et j'ai posé mon introduction en 3 grands points. J'essaierai de nous aider à nous mettre d'accord, c'est quoi la ruine ? Combien de types, deuxièmement, combien de types de ruines y a-t-il? Et puis nous poserons aussi la question, qu'est-ce qui amène la ruine dans nos vies? Et puis, j'aborderai l'un des premiers incontournables. Alors, je commence par la toute première question, c'est quoi une ruine? J'ai essayé de consulter le dictionnaire et j'ai trouvé 5 pistes qui nous aident à comprendre c'est quoi la ruine. Premièrement, parler des ruines, c'est parler des restes d'un édifice qui s'est écroulé. Reste d'un édifice qui s'est écroulé. La deuxième définition que j'ai trouvée, parler des ruines, c'est parler de l'effondrement partiel ou total d'une construction ou d'un ensemble d'édifices à la suite d'une dégradation, soit naturelle ou d'une destruction volontaire ou alors accidentelle. Troisième définition que j'ai trouvée, c'est destruction partielle ou totale d'une chose. Quand une chose est détruite, soit partiellement ou totalement, on peut parler des ruines. quatrième et avant-dernière définition que j'ai trouvée, lorsqu'on parle des ruines, on parle de la dévastation d'un lieu, de ses richesses par l'homme ou quelquefois par une force naturelle. Et la cinquième et dernière définition que j'ai trouvée des ruines, c'est altération mais profonde d'une chose pouvant aboutir à sa disparition. Il y a eu altération, mais c'est allé à un tel degré qu'il y a possibilité d'une disparition. Et j'aimerais que vous et moi, nous puissions retenir ces choses qui vont suivre en étudiant la parole de Dieu. Chaque fois qu'il est question des ruines, il y a ces quatre choses qui reviennent. La première chose, chaque fois qu'il est question des ruines, quelqu'un ou quelque chose a subi des dommages. Chaque fois. Chaque fois qu'il est question des ruines, quelqu'un ou quelque chose a subi des dommages. Deuxièmement, chaque fois qu'il y a ruine ou qu'il est question des ruines, il y a toujours une cause ou un agent causal. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il puisse y avoir une ruine. Cette cause peut être intérieure à la chose qui subit la ruine ou elle peut être extérieure. Troisième chose que j'ai trouvée aussi, chaque fois qu'il y a ruine, il y a perte des qualités. La chose n'est plus dans son état plaisant initial. Il y a des qualités qui ne sont plus. Et quatrièmement, chaque fois qu'il y a ruine, il y a difficulté, je n'ai pas dit impossibilité, difficulté à revenir à l'état initial. Et quand je dis difficulté, j'aimerais dire humainement parlant. Dans Josué chapitre 8, au verset 28, la Bible donne un exemple des ruines. Josué brûla la ville des Haï et en fit un monceau des ruines. Volontairement, il a détruit avec l'aide de l'armée d'Israël la ville d'Haï. Et puis la Bible dit que cette ville s'est retrouvée en un monceau des ruines. Dans Job au chapitre 15e, au verset 28, la Bible abonde dans le même sens. Et il habita des villes détruites, des maisons abandonnées sur le point de tomber en ruine. Il y a une destruction, mais elle n'est pas encore totale. Dans Ésaïe chapitre 17, au verset 1er, c'est une prophétie qui est faite sur la ville de Damas. Il est dit, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Deuxième question que j'ai voulu que nous puissions nous poser, combien de types de ruines y a-t-il selon la parole de Dieu? En étudiant la parole de Dieu, nous retrouvons qu'il y a deux types, deux sortes de ruines. Premièrement, il y a des ruines physiques et deuxièmement, il y a des ruines spirituelles. Les ruines physiques sont visibles ou mieux, facilement détectables. On peut le voir, les juger avec les yeux. Mais il y a aussi des ruines spirituelles. Il y a des gens qui peuvent être ruinés spirituellement, mais les ruines spirituelles ne sont pas toujours visibles. Quelqu'un peut continuer à venir à l'église habituellement et même régulièrement, mais être déjà spirituellement ruiné. Un monceau, rien ne va. Il peut même faire acte de dévotion extérieure. On peut avoir un mari qui nous accompagne, qui ouvre les livres de chants, mais au fond de lui, ruiné spirituellement. Mais n'empêche, quand on est proche de Dieu, il y a des choses que l'on peut sentir sans les savoir. J'aime quand 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, l'apôtre parle des choses que l'on ne peut juger que spirituellement. Et vous savez, dans ma petite expérience, dans la marche avec Dieu, il arrive, j'aime souvent cette formule, il arrive que subitement je sais. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais que je sais. Je sais que quelqu'un ne va plus bien, mais je ne sais pas comment je sais. Mais je sais que je sais. Et il arrive toujours que l'épreuve vienne après. Si vous êtes tellement proche de Dieu, vous êtes avec cet homme, vous sentir qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans sa vie. Comment l'expliquer, hein, comme un homme dira, une femme dira à son mari, je sens que tu ne vas pas bien. Alors son mari dira, non. Les dons spirituels, il y en a 9, tu en as un 10e, les dons des soupçons. Mais vous savez, la meilleure, elle a fini toujours un jour par avoir des preuves que ce qu'elle sentait sans l'expliquer, elle a pu avoir finalement des preuves. Perte ou ruine, soit physique, soit spirituelle. Troisième question, qu'est-ce qui amène les ruines? qu'est-ce qui amène les ruines? En étudiant la parole de Dieu, nous nous rendons compte que plusieurs choses, ou plusieurs raisons peuvent faire que les ruines s'invitent. Premièrement, nous-mêmes. Malheureusement, nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, nous-mêmes, volontairement ou involontairement, nous-mêmes par les choix que nous faisons, nous-mêmes par les options que nous levons. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement pour dire aussi, c'est vrai, nous-mêmes devons être à la base de deux manières. Premièrement, par omission, par des choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas eu à faire. Et deuxièmement, par commission, des choses négatives que nous faisons. Seigneur, aide-moi à ne pas poser des actes ou à ne pas manquer à poser des actes qui vont faire que la ruine puisse inviter. Deuxièmement, la ruine peut être due à d'autres personnes, des personnes mal intentionnées vis-à-vis de nous, qui volontairement veulent nous faire du mal. L'exemple que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, c'est dans les livres de Juges, au chapitre 6, verset 3, au verset 4, ainsi que le verset 6. Il y a un moment pénible, un moment difficile dans la vie d'Israël. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays. Il ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Et la Bible dit au verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Non pas parce qu'il le voulait, mais des gens étaient à la base de cela. Troisième cause de nos ruines, ou de notre ruine, c'est le diable. Acteur invisible, mais pas moins présent. Dans Jean chapitre 10, au verset 10, la Bible nous présente sa spécialité. Quelqu'un avait dit, si le diable était un médecin, il ne serait pas un généraliste. Ça serait un spécialiste. Car la Bible dit, il ne vient que pour voler, tuer et perdre. Ça, c'est la version Tob. La version française courant dit, il vient que pour détruire, dérober et égorger. La version La Colombe dit, voler, abattre et détruire. Il ne sait rien faire d'autre si ce n'est ça. Job, au chapitre 1er, verset 13 à 21, nous parle d'un homme ruiné. Ruiné matériellement, ruiné physiquement, mais ruiné aussi finalement émotionnellement. J'aurais pas aimé être à la place de Job. Job était en train de subir une succession de situations pour lesquelles lui ne voyait que les effets physiques. Mais il ne connaissait pas tout ce qui s'est tramé sur le plan spirituel. Il a vu ses enfants être terrassés par une maison qui s'est écroulée. Il a vu ses brebis, il a vu ses bœufs, il a vu toute sa richesse partir. Et dans Job, au chapitre 1er, au verset 21, il lance comme un cri de désespoir. Nu je suis sorti du sein maternel, nu je retournerai. Il regarde son présent n'a rien à voir avec son passé. Son présent a l'air d'être une caricature de son passé. Pourquoi? Tout est parti. Et là, ce n'était qu'une première partie. Job, au chapitre 2, verset 7 à 8, là, il est touché dans son corps. Des ulcères, ça invite dans son corps. Et il commence à se gratter avec un tesson. Et là, il dit, puis Satan frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter. Et il s'assit sur la cendre. Ruine. Il se regarde et dit, est-ce bien moi? Son présent, comme je le disais, n'a rien à voir avec son passé. Mais ce matin, parmi les grandes choses qui peuvent nous aider à reconstruire sur d'anciennes ruines, il y a une première chose incontournable pour que nous puissions reconstruire sur d'anciennes ruines. Il nous faut savoir qu'il y a eu ruine. Prise de conscience qu'il y a eu perte. Prise de conscience que l'on a perdu quelque chose. Savoir qu'il y a des ruines. C'est-à-dire être informé, être au courant, être conscient qu'on a perdu quelque chose, être conscient que des dégâts ont été causés ou sont en train d'être subis. et les deux premières portions que nous avons lues, Néhémie chapitre 2, 11 à 15, ainsi que 17, et puis Luc chapitre 15, versets 14 à 19, nous confirment cela. Dans Néhémie chapitre 2, verset 13e, ainsi que verset 15e, la Bible nous parle de la demande en deux temps que Néhémie fait auprès de son roi. Le verset 13 dit, j'ai sorti des nuits, il fait sa demande auprès de son roi, et puis quand il arrive à Jérusalem, écoutez la démarche, j'ai sorti des nuits par la porte de la vallée, et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Et j'aime le verbe qui est utilisé, considérant les murailles en ruine de Jérusalem. Et j'aime le verbe qui suit après, réfléchissant à ces portes consumées par le feu. On lui avait parlé d'une perte. Il se faisait une idée théorique. Il avait conscience que des dégâts avaient été causés. Mais avant qu'il fasse quelques travaux de reconstruction, il a voulu se rendre compte jusqu'où les dégâts ont été profonds. Je ne peux reconstruire que si j'ai conscience qu'est-ce qui a été détruit, comment ça a été détruit, jusqu'à quel niveau. La Bible dit, considérant le muraille en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu. Écoutez ce que la version française courant dit. J'examinais, j'aime bien ces termes, j'examinais les murailles de Jérusalem et j'ai constaté qu'elles avaient des brèches et que les portes avaient été dévorées par le feu. Et là, c'est la version français courant. Les termes qui est utilisé là, j'examinais dans sa racine. En hébreu, cache trois idées. J'ai trouvé dans deux dictionnaires en hébreu que je puis consulter. Examiner tel que français courant le dit, veut dire regarder attentivement quelque chose pour en connaître les particularités. Juger de ses qualités et de ses défauts. Et c'est ce que Néhémie a fait. Il dit, je vais pas avoir une idée vague. Je veux regarder attentivement jusqu'où destruction il y a eu. Et deuxièmement, ce terme examiner veut dire observer attentivement quelque chose dans le but de vérifier sa valeur, ou mieux, sa vraie valeur, ainsi que sa qualité. Et troisièmement, le mot examiner veut dire faire l'analyse d'une chose dans le but de la connaître. Néhémie dit, je veux voir, on m'a parlé des destructions, mais je veux pas avoir une idée vague. Il s'est rapproché, seul, il a considéré, j'essaie de m'imaginer, il a dit, oh là, il n'y a plus rien à récupérer. Oh là 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 là, ces murs, je pense qu'il faut aller jusqu'à la fondation. Il dit, non, là ça ne sert à rien, si j'essaie de bâtir dessus, ça sera sur des choses fragiles, tout va s'écrouler. J'aimerais voir jusqu'où les dégâts ont été profonds. Jusqu'où as-tu connu des ruines individuellement en tant que croyant? Jusqu'où votre relation de fiançailles, de mariage est-elle ruinée? Jusqu'à quel niveau vos études sont-elles ruinées? Jusqu'à quel niveau votre relation spirituelle est-elle, avec Dieu est-elle ruinée? Jusqu'à quel degré? Et j'aime encore toujours Néhémie au chapitre 2e, au verset 15, la Bible dit, j'ai monté de nuit par les torrents et j'ai considéré encore la muraille. C'est comme s'il a fait un deuxième examen. Il est venu une première fois, et il est revenu encore. La version française courant dit, j'ai poursuivi l'examen des murailles. La version parole de vie dit, j'ai continué à examiner attentivement les murailles. La version Taub, traduction écuménique de la Bible, dit, j'ai inspecté attentivement la muraille. Et ce n'est qu'après avoir fait cette inspection profonde, qu'il a lancé ses cris dans Néhémie chapitre 2, verset 17. Venez, rebâtissons la muraille et nous ne serons plus dans l'opprobre. C'est quand il a été conscient jusqu'où la destruction a été profonde qu'il a invité les autres à l'action de rebâtir. Mais j'aime, même avant d'inviter les autres à l'action de rebâtir, il leur dit, on doit se mettre d'accord. Écoutez ce qu'il dit. Voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. J'aime. Il dit pas vous êtes. Il se met avec eux. Voyez le malheureux état dans lequel nous sommes. Et là, intervient aussi ce que Luc chapitre 15, verset 14 à 19, nous montre concernant les fils perdus. C'est ce jeune homme qui un jour a levé l'option de quitter les toits paternels qui a demandé à son père sa part d'héritage et qui est parti. La première partie ou le premier temps de ce qu'il a connu comme escapade, moment de joie, moment de réjouissance, et puis subitement tout commence à dégringoler. Il perd tout ce qu'il a l'habitude dit lorsqu'il eut tout dépensé. Une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il a se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoie dans ses champs garder les pourceaux. J'essaie de m'imaginer, il doit avoir des ongles sales et longs. Il doit avoir des cheveux désordonnés. Ça fait longtemps qu'il est passé par chez le coiffeur. Même quand il en a envie, les moyens ne lui permettent pas. Déjà, il est difficile à manger. Il doit voir maigri. Il sent sûrement mauvais. Ça fait longtemps qu'il s'est bien lavé. Et puis, il est en train de manger avec le pourceau. Mais j'aime ce que la Bible déclare au verset 17. Et quel exercice important. Étant rentré en lui-même. La version française courante dit, alors, il s'est mis à réfléchir sur sa situation. Il s'est arrêté. Il s'est regardé et dit, ça c'est pas moi. Je n'ai pas toujours été ainsi. J'ai été un enfant vivant dans l'opulence auprès des papas. J'avais des serviteurs et des servantes. Ça c'est pas moi. J'ai jamais été ainsi. Et c'est sûr, il s'est dit aussi, je ne veux pas continuer à être ainsi. Étant rentré en lui-même, comme je dis français courant dit, il s'est mis à réfléchir sur sa situation et il s'est dit. Remarquez que ce n'est pas l'extérieur qui les juge. C'est lui-même avec l'aide de Dieu. Et là intervient deux notions importantes sur lesquelles nous allons petit à petit finir ce soir et passer un petit moment dans la prière. Premièrement, la notion de la réflexion et la notion de la comparaison. La Bible dit, il s'est étant rentré en lui-même. D'autres versions disent, comme français courant dit, il s'est mis à réfléchir sur sa situation. Parler des réflexions, du latin reflectere, c'est entrer dans. Entrer dans. Quelque chose que la plupart d'entre nous n'aimons pas faire. Nous n'aimons pas souvent ce regard à l'intérieur. Où nous nous jugeons sans complaisance. Déjà, nous avons difficile à accepter que les gens nous jugent, mais nous avons difficile à nous juger. Nous accordons toutes sortes de circonstances atténuantes. Réfléchir, entrer dans, mais aussi examiner profondément et longuement. Réfléchir, c'est aussi concentrer sa pensée ou son attention sur un objet, afin d'en avoir une connaissance approfondie, qui va nous aider à agir en connaissance des causes. Mais réfléchir, c'est aussi juger et estimer la valeur après un examen profond. Et par rapport à la réflexion, la Bible nous montre six choses que j'aimerais que vous et moi, nous puissions retenir. Premièrement, la réflexion, c'est un exercice intérieur. Psaume 77 ou 77, le verset 7e, psaume 77, le seul 7e verset. Et le psalmiste dit quelque chose de très profond. Je pense à mes cantiques pendant la nuit, mais j'aime ce qu'il ajoute. J'ai fait des réflexions où c'est au-dedans de mon cœur. Au-dedans de mon cœur, je m'arrête, je dis Roland. Où est-ce que tu en es dans ta marche avec Dieu? Roland, est-ce que tu as un bon mari? Roland, tu as un bon père? La réflexion, l'exercice intérieur. Aidez-moi à être le prédicateur adjoint en posant la question à votre voisin. Ça vous arrive toujours de réfléchir? Deuxième chose que la Bible dit concernant la réflexion, c'est que la Bible non seulement l'encourage, mais la Bible donne les bons moments pour pratiquer cet exercice. La Bible non seulement encourage la réflexion, mais la Bible nous donne les bons et meilleurs moments pour pratiquer cet exercice. Et je voudrais que nous puissions lire ensemble ces merveilleux passages. Ecclésias chapitre 7, au verset 14e. Et ça, c'est un homme qui a un vécu, qui a un peu écrit comme ses mémoires. Écoutez ce qu'il dit, au jour du bonheur, sois heureux. Mais il dit, au jour du malheur, réfléchis. Quand rien ne va, arrête-toi. Rentre à l'intérieur, pourquoi ça ne marche pas? Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. La version française courant dit, lorsque tout va bien, soyons heureux. Mais lorsque tout va mal, réfléchissons. Réfléchissons. Proverbe chapitre 20, verset 25, nous donne encore une autre raison par rapport au temps le meilleur pour pratiquer cet exercice. 20e chapitre des Proverbes, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ça veut dire quoi? Il faut réfléchir avant. La réflexion est une bonne chose, la Bible l'encourage, mais la réflexion a un moment. Troisième chose que la Bible nous dit concernant la réflexion, la Bible attache des bénéfices à cet exercice. La Bible dit ceux et celles qui pratiquent cet exercice ont un plus. Proverbe chapitre 16, au verset 20e, merveilleux passage. Ma Bible à moi dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses. Pourquoi mon épouse et moi ça ne va pas? Pourquoi on se cogne toujours la tête? Pourquoi sur les 7 jours de la semaine, 2 jours de complicité, 3 jours on se boude et 2 autres jours on est entre les deux? Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Là, il dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. La version Tob dit, qui réfléchit mûrement à une affaire s'en trouvera bien. La version Parole de Vie dit, celui qui réfléchit longtemps à une affaire obtient des bons résultats. Quatrième chose que je voudrais ajouter, attachée à la réflexion, c'est que cet exercice sans Dieu, ça j'en parlerai demain en notre séance du soir, cet exercice sans Dieu, c'est-à-dire sans son aide et son accompagnement, peut être perte de temps et un exercice futile, sans importance. Il est bon dans notre réflexion que Dieu soit associé. Que ce ne soit pas seulement l'intellect, que ce ne soit pas seulement le côté réfléchi. Écoutez le psaume 73, verset 16e. Et j'aime la sincérité de cet homme. C'est un enfant de Dieu, un homme de Dieu, même un serviteur de Dieu. Asaph, il s'appelait. Il passait par une situation où il avait l'impression qu'il ne comprenait pas. La crainte de Dieu ne l'amenait pas à tout ce qu'il aurait voulu comme résultat positif. Alors il s'est mis dans un exercice, et j'aime sa sincérité. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, le but de cet exercice, c'est avoir plus de lumière et moins de zones d'ombre. Mais écoutez le résultat pour lui. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut plus grande à mes yeux. Donc il avait plus de problèmes après la réflexion qu'avant. Le but, c'était, j'essaie de réfléchir, que j'ai plus de lumière, moins de zones d'ombre. Mais parce que Dieu n'était pas, il réfléchissait selon l'homme. Sa réflexion l'a amené plus de difficultés. Cinquième et avant-dernier principe, c'est que la réflexion a des effets protecteurs. C'est-à-dire, elle nous garde des conséquences négatives. La réflexion a des effets protecteurs. Proverbe chapitre 2. Verset 11, un père qui parle à son fils lui dit la réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. La réflexion veillera sur toi. Le fait de rentrer dans certaines choses, si je fais ça, voilà là où ça va m'amener. Parce que tu réfléchis, tu dis non, ça je fais pas. Et ça te protège, ça te garde. Sixième principe, en étudiant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que des hommes, même spirituels, ont pratiqué cet exercice. Et même pour des sujets supposés spirituels. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 19, la Bible nous parle de Pierre, que l'Esprit vient aider à comprendre quelque chose, mais l'Esprit l'a aidé à comprendre parce que il réfléchissait. Il a vu une nappe qui descendait et une voix qui lui a dit, tue et mange. Il a voulu résister. Et puis il a cherché à comprendre qu'est-ce que cela voulait dire. Il avait dit, quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, j'aimerais dire, l'Esprit ne parle qu'à ceux qui réfléchissent et en ayant Dieu comme accompagnateur. ce sur quoi tu veux avoir des lumières, voilà la réponse qu'il y a derrière. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12e, Pierre a été arrêté, prêt à passer au jugement, parce que Jacques avait déjà été décapité avant, et alors que Pierre était arrêté, l'église était en train de prier. Et un miracle s'accomplit. Pierre est libéré, je n'aimerais pas trop revenir dans le détail, mais voilà, quand il a franchi la dernière porte, la porte de fer, il a l'impression de vivre un miracle. Et la Bible dit, après avoir réfléchi, il s'est dirigé vers la maison de Marie. Que dois-je faire maintenant que je viens d'être libéré? Spirituel, mais la réflexion s'est attachée aussi à lui. Cette réflexion dont il est question naît et ne sera efficace que si le deuxième exercice aussi nous accompagne dans notre effort de reconstruire sur d'anciennes ruines. La réflexion naît et ne sera efficace que s'il y a comparaison. La comparaison, c'est la plupart des fois un acte mental et intellectuel par lequel nous rapprochons deux ou plusieurs choses de même nature pour mettre en évidence leur ressemblance ainsi que leur différence. Nous avons mentionné Néhémie chapitre 2 verset 17 lorsque Néhémie fait constater et appeler à l'action. Il dit, voyez les malheureux états dans lesquels nous sommes. Et quand il parle ainsi, il parle du malheureux état d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a en tête le meilleur état d'hier. L'état malheureux dont il parle aujourd'hui, c'est comparé à l'état d'hier. Ces murailles n'ont pas toujours été ainsi. Cette ville n'a pas toujours été ainsi. C'est en comparant ce qu'il y avait hier avec ce que je vois aujourd'hui, je dis, nous sommes malheureux. Il veut dire encore, ce que je vois avec mes yeux, ça ne devait pas être. J'aimerais nous dire, ne nous habituons pas à la médiocrité. Ne nous habituons pas à des choses qui nous ramènent vers le bas. Et dans Luc chapitre 15, verset 19, que nous avons lu aussi, ce jeune homme, non seulement il est rentré en lui-même, mais à un moment il s'est arrêté. La Bible en parle, mais un peu en filigrane. Il compare son état avec l'état des mercenaires de la maison de son père. Il se regarde et dit, ça n'a pas toujours été mon état. Il dit, des mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Verset 17. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Il dit, mon état actuel n'a rien à voir avec mon état d'autrefois. Il dit, je n'ai pas toujours été ainsi. Je suis tombé plus bas que les mercenaires de mon père. Et il s'est dit, non, je veux retrouver mon état d'autrefois. Quand il n'y a pas comparaison, on peut prendre les moins bons comme étant la normale. Quand on ne place pas des choses côte à côte, on peut se contenter de certaines choses. Bon, ici je peux parler un peu librement. Je suis né il y a plusieurs années dans mon pays. Au mois de mars passé, j'ai totalisé 50 ans. Quand je suis né dans ce pays, il y avait certains endroits qui étaient merveilleux avec des fontaines, des belles routes. Je prenais les taxis, j'allais chez moi à l'école, à l'Athénée de Kalina. Et au retour, les taxis me prenaient de l'Athénée de Kalina jusqu'à chez moi à Bandal. Ça me faisait rentrer juste devant chez moi à la maison. Et puis, à 20, 25 ans, les choses se sont détériorées. Et j'ai été étonné, il y a 3 ans, on a placé une grande fontaine à la place appelée Gare Centrale. Les gens ont crié chez nous, le Congo se développe. J'ai dit, si vous appelez un peu de retour à la normale, un développement, alors vous avez un problème. Parce que moi, je suis né dans cette ville il y a 40 ans. Il y avait non seulement ça, mais il y avait mieux que ça. Pourquoi eux, ils apprécient? Parce qu'ils n'ont pas d'éléments de comparaison. Ils ont l'impression que ce qui existe, c'est le top. Mais moi qui ai fêté plusieurs fois le Nouvel An, je peux leur dire, c'est vrai, c'est mieux par rapport à hier, mais c'est rien par rapport à avant-hier. Avant-hier, c'était encore mieux. Et j'aime beaucoup illustrer ça par Esdras au chapitre 3, au verset 12e. Israël est tombé très bas. Et puis voilà, on reconstruit les temples. On peut me placer ce passage. Et quand les temples sont en train d'être reconstruits, il y a il y a deux types de bruits. Il y a pleurs, il y a cris. Mais écoutez ce que la Bible dit. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Ils ont dit, ah, wow, nous retrouvons notre maison. Mais la Bible dit, beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Les autres sont nostalgiques. Nous sommes en train de retrouver quelque chose que nous avions connu autrefois. Ils avaient des éléments de comparaison. Mais ceux qui n'avaient rien connu avaient l'impression que tout était nouveau. J'aimerais insister, pas de reconstruction sans prise de conscience qu'il y a eu ruine. Ruine individuellement dans notre marche. Ruine individuellement dans notre couple, ruine dans notre santé, ruine dans notre ministère, ruine dans notre église, ruine je ne sais dans quel autre domaine. Et par rapport à la réflexion et à la comparaison, il y a quatre choses qui arrivent le plus souvent. Il arrive, premièrement, que nous ne voulons pas voir les côtés négatifs de ce qu'il y a. C'est les dénis. Nous refusons de croire. Nous refusons d'accepter que ce qu'il y a devant nos yeux est négatif. Deuxième attitude. Nous voyons certes que ce qui est arrivé, c'est la déchéance, mais nous nous habituons à cela. La plupart des fois, ce sont ceux qui ont quitté le pays chez nous il y a 20 ans, 25 ans. Quand ils rentrent, ils nous trouvent anormal dans notre normalité. Ils s'étonnent. Comment vous montez le taxi? À part les chauffeurs, il y a deux personnes devant et quatre derrière. Ils s'étonnent. Quelqu'un un jour nous a demandé, est-ce que la ville de Kinshasa est passée par une série de bombardements? Nous disons non. Pourquoi? Parce que nous sommes dedans depuis longtemps et nous sommes habitués. Habitués à brûler le feu rouge. Habitués à rouler n'importe comment, te dépasse à gauche et à droite. Commencez à prendre ce qui est anormal comme étant normal. Que Dieu nous aide à ne jamais nous habituer au mal. Troisième attitude qui arrive lorsqu'il y a ruine. C'est prendre conscience qu'il y a ruine et tomber dans le désespoir. C'est dire, c'est tellement aller loin. J'en parlerai demain le matin. Qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a encore possibilité? Ça sert à rien. On veut pas se battre. On veut pas prendre l'initiative. On veut pas essayer de faire quelque chose. On s'est dit, c'est déjà aller très loin. J'en parlerai demain matin quand je parlerai de la place de la foi pour reconstruire. Mais quatrièmement, c'est de se dire, quels que soient les dégâts causés par les diables, c'est possible encore. C'est possible. Et j'aimerais déjà ce soir, en terminant, dire, avec Dieu, la reconstruction a toujours un allié, les temps. Ma petite expérience m'a montré que le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu capable, se sert toujours du temps pour faire revenir les choses qui sont parties. J'aime ces merveilleux passages. Néhémie chapitre 6, verset 15. Je ne sais pas si nous avons les mêmes Bibles. La mienne dit, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul. En 52 jours. 52 jours. Le premier jour, on a commencé à faire, ça avait l'air de rien. Mais quelque chose était enclenché. Le deuxième jour, ça avait encore l'air de rien. Mais quelque chose était en train d'avancer. Au 10e jour, j'aime le dire, au 10e jour, ce n'était pas encore la muraille totale, mais j'aime aussi, ce n'était plus aussi déjà les ruines. Il y a des moments où nous ne sommes pas encore, mais nous sommes plus aussi. Combien il est bon d'apprendre à récupérer quelquefois les chemins perdus, pas à pas. Les pertes peuvent être quelquefois des phénomènes, mais la plupart des fois la reconstruction est toujours un processus. Autant Samson avait tout perdu du cou, les cheveux sont partis du cou. Mais j'aime quand ma Bible à moi, les cheveux de Samson recommencèrent à pousser. C'est pour ça que j'aimerais dire, et à l'église, mais aussi à nous, apprenons à laisser le Dieu qui se sert du temps faire son travail de reconstruction. J'ai toujours été étonnant en lisant la parole de Dieu. De lire Genèse chapitre 1, chapitre 2. Le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu capable de faire deux choses. La première, il a tout fait en 6 jours. Qu'est-ce qui lui manquait de faire tout du coup? Le Dieu tout puissant. Et le Dieu déjà tout puissant fait les choses par processus. Il fait ciel et terre, il dit ok, et puis je continuerai demain. Et puis il vient une deuxième part. Nous voulons avoir tout du coup. Deuxième des choses qui m'étonnent avec ce Dieu, c'est que le Dieu fort, puissant et capable a commencé par un désordre avant de placer l'ordre. La Bible dit, créa la terre et la terre était informe et vide. On peut dire, mais ça c'est un échec. Mais le même Dieu est revenu encore et il a pu travailler. J'aimerais dire, si nous voulons la reconstruction, il nous faut prendre conscience qui perte il y a eu. Je termine en disant réflexion et comparaison nous amène non seulement à prendre conscience, mais il nous faut éviter un piège, le piège de la légèreté et de la complaisance. Refuser de regarder droit avec les yeux pour se dire il y a quelque chose qui ne va pas. J'aime Néhémie dans chapitre 2 verset 17 que nous avons lu. Il dit voyez les malheureux états dans lesquels nous sommes. Une autre version dit vous voyez nous sommes dans la misère. Une autre version dit encore, ne nous leurrons pas, ça ne va pas bien. Et ça c'est le premier pas, le plus important, si nous voulons reconstruire. Qui êtes-vous? Où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec Dieu? Où est-ce que vous en êtes dans votre ministère? Où est-ce que vous en êtes dans votre couple? Où est-ce que vous en êtes? Moi je ne vois que l'extérieur, mais Dieu sait voir l'intérieur. L'un de mes professeurs à Nairobi, quand je faisais ma formation en théologie, me disait cette vérité que j'ai toujours gardée. Il disait, en chacun de nous, il y a 4 identités, 4 mois. La première identité, c'est le moi officiel. C'est celui que nous présentons. Il est sophistiqué. Il est travaillé. C'est le petit masque que nous portons quand nous venons à l'église. Bonjour frère. Shalom. Et puis notre deuxième identité, c'est le moi privé. Et chez certaines personnes, il y a déjà un gros écart entre le moi officiel et le moi privé. Les moi privés seuls, ceux qui nous côtoient chaque jour y ont accès. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ces diacres qu'on était en train de présenter à l'église. On devait les consacrer et le pasteur est passé ici, il dit, cet homme c'est un homme d'une grande probité morale. C'est un homme, c'est l'intégrité faite homme. Cet homme, c'est l'honnêteté, mais avec H majuscule. Et quand on parlait comme ça, son épouse qui était à côté faisait... Comme pour dire, vous le connaissez dans l'officiel. Mais moi, je le connais dans le privé. Combien de fois, chez certaines personnes, il y a un gros écart entre les mois officiels et les mois privés. Et la troisième identité, c'est le moi réel. Et chez plusieurs d'entre nous, il y a déjà un gros écart entre les moi officiels et les privés. Mais il y a encore un gros écart même entre les privés et les réels. Mon pasteur disait, dans les moi réels, il n'y a que 2 personnes qui ont accès. Dieu et nous-mêmes. Vous n'avez aucune idée, votre homme, vous ne le connaissez pas. Vous n'avez aucune idée, votre femme, vous ne la connaissez pas. Vous connaissez d'elle ou de lui ce qu'il a voulu vous montrer. En disant, je lui dirai ça, mais ça il ne viendra jamais vous dire, vous le voyez, ce saint homme qui vient à l'église, qui sert le Seigneur, mais accro à la pornographie. Même quand il voit les enfants, il regarde un film avec des scènes bizarres, mais qu'est-ce que vous regardez? Mais trouvez-le au bureau. Il crie sur les enfants. Madame ne sait pas, mais lui-même est dedans. La grande question que j'aimerais vous poser, mais poser, qui êtes-vous? Qui suis-je? J'ai lu ce récit, combien ça m'a secoué. Une dame a vécu avec un homme en Argentine, à Buenos Aires, 45 ans. Ils sont connus, l'homme avait 28 ans. Et c'est 4 ans après sa mort qu'il était en train de remettre de l'ordre dans cette histoire qu'il a retrouvé deux vieux documents. Et s'est rendu compte que son mari n'était pas cet Argentin, mais c'était un ex-nazi. Et ils ont vécu ensemble autant d'années. C'est pour cela que j'ai dit, notre moi réel, il n'y a que Dieu et nous-mêmes qui en ont accès. Combien de fois au début de ma marche chrétienne, j'ai tombé dans certains péchés, je me relevais, j'ai dirigé la jeunesse de mon église. Mais j'avais des problèmes. Et des fois quand je m'arrêtais, je disais, Dieu merci, tu n'exposes pas notre cœur et ce que nous sommes réellement. Je disais, si tout le monde me connaissait tel que Dieu me connaît, j'allais fuir et me cacher devant les gens. Qui êtes-vous et qui suis-je? Mais la quatrième et dernière identité, et ça c'est une identité qui nous donne espoir, c'est le moi potentiel. Et qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais dire, quel que soit ce que votre moi réel vous dit, que vous êtes perdu, vous êtes noir, il y a un moi potentiel qui vous attend. Ce moi potentiel, c'est ce que Israël est revenu. Les gens ne voyaient qu'un monceau des ruines. Mais Dieu voyait et a fait montrer à Néhémie, il est possible que des murailles reviennent. Ce que tu vois ne va pas s'arrêter ici. Ce jeune homme s'est éloigné de son père et il est tombé dans la déchéance. Quand il regardait son présent n'avait rien à voir avec son passé. Mais quelque chose lui disait au fond, tu n'es pas condamné à rester ça. Il y a une autre identité qui t'attend. Tu peux changer, tu peux redevenir celui que tu étais, pourquoi pas en mieux. Ah, en terminant ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, ce n'est jamais fini. Tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Je voudrais inviter les musiciens à venir durant 5 minutes, avant que je revienne, peut-être pour encore 3 minutes et conclure. J'ai voulu le faire avant quand j'ai commencé. Mais ça bouillonnait tellement dans mon cœur. Les musiciens peuvent m'aider à revenir et reprendre ces cantiques avec lesquels vous avez fini tout à l'heure. Quand j'étais là assis et que mon frère était en train de conduire ces derniers cantiques, les larmes coulaient de mes yeux. Et j'ai senti dans mon cœur l'Esprit de Dieu me dire, lis 2 Rois chapitre 2 verset 10. Et j'ai ouvert, c'était l'endroit où Élisée et Élie sont en train de marcher. Et finalement, Élisée fait une demande. Il dit, j'aimerais avoir la double portion de ton esprit. Écoutez la réponse d'Élie. Ce que tu demandes est une chose difficile. Et alors que j'étais assis là, l'Esprit de Dieu m'a dit, Roland, amène mon peuple ce soir à me demander des choses difficiles. Des choses compliquées. Des choses, quand toi-même tu veux les demander, tu dis non, là, ça sert à rien de demander à Dieu, c'est aller trop loin. Je ne sais dans quoi tu passes, je ne sais quel est le problème, je ne sais quel est le défi. Dieu me dit ce soir, demandons-lui des choses, quand tu voulais lui demander ton côté réfléchi, il te dit ça sert à rien. Ça il peut pas. Ça atteint un point de non-retour. Je ne sais comment l'expliquer, mais ça résonne encore dans mon cœur. Demandez-moi des choses difficiles. Demandez-moi des choses difficiles. Et juste avant que je le monte, l'Esprit de Dieu est en train de montrer une femme qui est ici, qui pleure. Depuis quelque temps, tu pleures pour un enfant. Il y a 2 générations, ta famille n'a été qu'une famille des enfants de Dieu. Et puis tu as un enfant complètement perdu. Tu as prié, tu as souvent pleuré. Tu te demandes si sera récupérable. Je ne sais qui tu es. Et même je ne veux pas connaître. Dieu m'a dit de te dire, cet enfant, non seulement il va revenir à Dieu, mais il va les servir. Il va les servir. Parce que les prières faites par des arrière-grands-parents, par les parents, ne se sont pas envolées. Je voudrais simplement, dans le recueillement, que nous chantions ces merveilleux cantiques avec lesquels nous avons fini. Je veux que tu te sentes libre, et que tu te mettes debout, à genoux, t'es couché par terre. Mais durant un moment, nous allons répandre nos cœurs devant lui, en citant ses noms, ses noms, ses noms, ses noms. La Bible déclare, il est une pierre solidement posée en Sion. Ceux qui la prennent comme appui n'ont point hâte de fuir.
cette nouvelle dimension dans le ministère. Je ne sais quelle est cette chose difficile. Yeshua. Si on peut se tenir la main dans la main, il y a ces cantiques qui montent dans mon cœur. Si on peut nous aider à les chanter, attirez-moi à toi. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner. Restaurer notre amitié. Je le sens fort dans mon cœur. La gloire de Dieu est présente ce soir ici. Sa présence est glorieuse. Alléluia, c'est tellement clair et né dans mon esprit. J'entends de voir dans mon esprit un homme fatigué. Je vois comme quelqu'un qui est dans une salle de classe. Je vois comme chez nous au pays. Il a la taille de quelqu'un qui doit être en première secondaire. Mais il est dans une classe, je vois comme si c'est la troisième année primaire. Et il est le plus grand en taille de toute la classe. On les maintient dans cette classe, mais il se dit, ça c'est pas ma place. Et chaque fois qu'il veut aller dans la classe où l'estime, il doit être comme en première secondaire, on le fait retourner en disant, ta place est là. Et l'Esprit de Dieu me dit, à un homme de Dieu, tu es dans le ministère, tu es insatisfait de ce que tu vis. Les gens apprécient, peut-être même les ministères, je ne sais pas moi, les niveaux, mais au plus profond de toi, tu sais que tu peux plus, tu vaux plus. Il y a comme un cri de désespoir dans ton corps. Je veux plus rester en troisième. Ma place n'est pas ici. Je veux aller plus loin. Et pendant qu'on sera en train de chanter ces cantiques, toi qui sens cela dans ton cœur, tu n'hésiteras pas à venir à dire à Dieu, je veux plus. Je veux plus que ce que je vis. Je vois dans mon esprit une femme, mais je vois qu'elle est venue à plus de 10 kilomètres d'ici. Je la vois ayant enlevé son alliance et l'ayant placée comme sur la table. Dieu me dit, ta vie de couple est en suspens. Les gens vous voient à l'extérieur, mais ils ne savent pas que tu es insatisfaite. Et tu es venu même dans cette retraite en disant, Seigneur, je ne veux plus que ce cauchemar continue. Je veux plus de complicité dans ma relation avec mon mari. Je veux plus d'attente. Et l'Esprit de Dieu me montre clairement, je vois comme ton mari portant comme un masque. Et ce masque est tombé. Dieu me dit, tu as découvert des facettes de lui que tu ne connaissais pas. Ta confiance a été brisée. Et je vois un mot écrit, mensonge. Tu ne sais plus comment lui croire. Parce qu'autrefois tu croyais, puis tu as découvert des choses. Femme, Dieu me dit de te dire deux choses. La première, cet homme, c'est ton mari. Et la deuxième, la confiance, ça peut se rebâtir. À la troisième image que je vois, c'est tellement clair dans mon esprit. Je vois comme quelqu'un qui est dans un restaurant et on lui demande le menu, il prend et il n'arrive pas à choisir. Je vois, on lui amène un premier plat, il goûte, il dit, c'est pas ça. les seconds, les troisièmes, les quatrièmes. Et Dieu me dit, il y a ce soir ici un jeune homme insatisfait. Tu as essayé de toucher à toutes sortes de choses et ça essaie de ne pas étancher ta soif. Je vois même que tu as touché à la cigarette, à la drogue. Attire-moi à toi.
Attire-moi à toi.
Ne me laisse pas.
Ne me laisse pas.
Y a-t-il quelqu'un qui se reconnaît dans ces choses que Dieu m'a montrées? Viens ici devant. Car ce soir est un soir de rendez-vous. Toi, homme de Dieu qui veut plus. Insatisfait du degré, du niveau où tu es. Toi, femme qui désire plus. Toi qui veux que Dieu reconstruit des choses. Toi, jeune homme qui a bu à plusieurs sources. Alléluia.
Peut te remplacer.
Près de toi, je suis assuré.
Dans tes mains, je suis assuré.
Montre-moi la voix. Montre-moi la voix.
Montre-moi la voix.
Alléluia.
Qui me ramène à toi.
Oh. Sans toi,
je ne peux vivre.
Tu es tout pour moi.
Donne-moi.
Est-ce qu'on peut les chanter encore? Tu es tout. Tu es tout pour moi, tu es tout.
Tu es tout pour moi.
Sans toi,
je ne peux vivre.
Tu es tout pour moi.
Tu es tout pour moi.
Est-ce qu'on peut les chanter une dernière fois? Tu es tout pour moi. Tu es tout.
Tu es tout.
Seigneur,
tu es tout pour moi. Garde-moi.
J'ai à cœur alors que les enseignements continuent à jouer. Nous tenons la main dans la main. Et même vous qui êtes ici devant, vous qui êtes baptisé dans le Saint-Esprit, avec comme s'il parlait de particulier, de parler en langue. Laissez ces paroles en langue monter. Laissez ces chants en langue monter. Dans la machine de Yabo. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer. Il y a quelqu'un. On est en train de lui faire comme une piqûre du côté gauche. Dieu me dit, il y a quelqu'un qui souffre aussi des mal de poumons, des problèmes de poumons. Le Seigneur est en train de toucher cette personne. de la guérir. Depuis quelque temps la nuit, tu as des bouffées de chaleur. Et quelquefois, subitement, tu transpires. Et tu as des douleurs de du côté gauche de ton épaule. Seigneur, merci de le toucher ce soir. Merci de le guérir. Alléluia. Je vois un mot écrit au-dessus. Paris. P-A-R-I. Et Dieu me dit, il y a plusieurs qui ont mis Dieu à l'épreuve. C'est comme s'ils ont parié en disant, Dieu, je ne céderai que si tu fais ça. Je ne lâcherai prise que si tu fais ça. Et le Dieu que nous sommes venus chercher m'a dit, avant qu'on le quitte ici dimanche, il fera quelqu'un pour quelqu'un quelque chose qui te fera dire comme Job avait dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. J'aimerais alors que tu tiens la main de ton voisin, de ta voisine, mets-toi à prier pour lui, pour elle. Seigneur, visite-les. Seigneur, visite-la durant ces jours. Jésus. L'Esprit de Dieu passe au travers des rangs. Touche corps, âme, esprit. Que mieux que le psychiatre, mieux que le psychologue, restaure quelqu'un. Toi, esprit de dépression, va-t'en. Dépression, va-t'en. Tu lâches ces dents. Disjoncté, tu les lâches. Il ne finira pas dans quelque asile psychiatrique. Tu les lâches au nom de Jésus. Toi qui fais dire à cette jeune femme qu'elle est inutile, que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Toi qui lui montres tout ton noir, je fais taire ta voix. Je fais taire ta voix. Et je t'oblige de la lâcher. De la libérer au nom de Jésus. Toi, pensée d'inutilité qui invite les pensées de suicide. Toi qui fais dire à cette jeune fille que la plus belle chose qui peut et qui doit lui arriver, c'est la mort. Tu es un menteur.
elle vivra.
Amen.
Son bonheur n'est pas attaché à hier. Les meilleures choses attachées à sa vie sont attachées à demain.
Amen.
Car Dieu a un plan pour elle. Déracine toute puissance des pensées d'autodestruction, des pensées de suicide. Tu lâches, tu libères et tu ne reviens plus jamais au nom de Jésus. De voir sur le visage des trois personnes, deux hommes et une jeune fille, qui les mots complexes, complexés. Vous n'osez pas les dire à haute voix. Mais vous vous dites un raté. Et parmi les deux hommes, il y a quelqu'un, quand tu grandissais, on te le disait souvent, on t'est comparé à un de tes frères. Et tu as grandi avec cette idée que tu es un bon à rien. Et les quelques erreurs que tu as eu à commettre plus tard, on confirme aux yeux des autres et surtout à tes propres yeux que tu ne valais rien. Mais Dieu me dit de te dire ce soir, tu n'es pas ce que tu penses toi-même. Et tu n'es pas celui que les autres te collent. Je suis en train de voir comme un cahier. Je vois les six premières pages, écrites avec des ratures. Et puis on déchire ces feuilles. Dieu me dit, tout a été raturé jusqu'à présent. Mais je vais écrit des nouvelles pages, des belles pages. Et Dieu me dit de te dire, ceux qui ont douté de toi, ceux qui t'ont méprisé, je les garderai suffisamment longtemps en vie, afin qu'ils voient les nouveaux toi et qu'ils voient ce que Dieu peut et est capable de faire. Et Dieu me dit de te dire ce soir, homme, je ne le ferai que si tu crois que je peux le faire. Dieu me dit de te dire, je ne le ferai pas sans toi, je le ferai avec toi. Oh, Seigneur, merci pour ta présence glorieuse ce soir. Oh, merci pour cette joie, merci pour cette quiétude, merci pour ce bien-être que je ne sais expliquer. Alors que les amis vont rester pour que je fasse une prière. Je ne sais pas quel cantique Dieu va inspirer les groupes qui est derrière moi. Quand on a un tout dernier cantique, simplement exaltant, louant les noms de notre Dieu, je vais prier pour ces hommes, ces personnes qui sont avancées, puis nous tous, et puis je vais laisser le micro à mon frère. Je ne sais pas quel cantique. Je me redirai un peu comme le prophète. Y a-t-il un joueur de harpe ici? Dieu me dit de dire à certains en allant vous coucher ce soir, prenez un petit temps encore seul. Dieu me dit de dire même à certains, demain très tôt le matin, cassez les habitudes, réveillez-vous un peu plus tôt. Et passez un moment de dévotion, simplement en élevant le nom de Dieu. Ce week-end est un week-end de gloire. Dieu me dit, certains s'en souviendront dans 10, dans 20, dans 30 ans. Je vois les mots écrits en anglais, turning point. Dieu me dit, ce week-end est un turning point, un virage. Dieu me dit, c'est le week-end durant lequel les Jacob deviennent des Israël. Dieu me dit, durant ces trois jours, quelqu'un doit dire comme Jacob, quand il s'est battu avec l'ange, je ne te laisserai point partir, que tu m'aies béni. Je ne te lâcherai pas, que tu m'aies béni.
Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Oh, mon cœur me chanter. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Yeah. Mon cœur veut chanter. Alléluia. 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 Mon cœur veut chanter. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia.
Bien,
mon cœur veut chanter ton
Alléluia.
Ton amour m'étonne, tu es réel. Il ne change pas. Ton amour est là, Alléluia, oh, Alléluia, hey,
hey.
Alléluia,
Alléluia,
oh, Alléluia, 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 mon cœur veut chanter. En moi il résonne, au fond de mon être, cette joie grande, l'envie de te voir, tes beautés rayonnent, un chant de louange, soudain m'envahit, Alléluia, 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 reçois la gloire de Jésus.
Mon cœur me chante.
Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia.
Mon
cœur me chante.
Alléluia,
Alléluia,
Alléluia. Alléluia, mon cœur veut chanter, Alléluia.